Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Clash, je suis votre arbitre, Rachel Marsden. Hillary Clinton ou Donald Trump? Lequel des candidats serait mieux pour le reste du monde en dehors des États-Unis? On ne peut qu'espérer qu'il y aurait un désir de la part du peuple américain d'éviter une répétition de l'aventure Obama, un activiste de banlieue à Chicago qui s'est retrouvé du coup avec l'obligation de comprendre le monde, non seulement en dehors de sa banlieue, mais aussi en dehors de son pays. Rappelez-vous comment Obama était censé d'être une sorte de type bénin qui, contrairement à son prédécesseur, le président George W. Bush, allait conclure les engagements militaires à l'étranger, repatrier les troupes et se concentrer sur la politique domestique. Bon, cela ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Enfin, le soi-disant président domestique s'est vu traîner dans l'arène internationale, armé que de son prix Nobel de la paix préemptif. Maintenant, il risque d'arriver à la fin de son mandat avec le Moyen-Orient en feu et la guerre froide relancée. Apparemment, on ne peut pas appliquer les mêmes solutions pour la banlieue de Chicago à la banlieue de Bagdad ou de Benghazi. Sauf peut-être un jour, si l'immigration clandestine continue. Même si les électeurs américains voulaient bien se concentrer sur la politique domestique, l'état actuel de la mondialisation oblige tout leader d'avoir une compréhension de la géopolitique et de la géoéconomie. Et ceci même si son but ultime, c'est la démondialisation. Il faut quand même connaître son adversaire. Juste pour vous donner un exemple de l'impact de l'international sur le plan domestique, la réglementation internationale créée à Basel, en Suisse, à la demande des ministres de finances du G20, arrive éventuellement à la porte de tout citoyen des pays membres. La loi internationale s'est adaptée et adoptée au niveau national, imprègne alors l'économie et impacte divers secteurs, allant de la finance et l'assurance jusqu'à la gestion d'actifs et l'industrie minière, par exemple. On lance les nouveaux conflits ou réglementations. C'est toujours les lobbies et les politiciens qui en profitent et c'est le citoyen lambda qui en paye. Ce n'est qu'ensuite qu'on mobilise la presse et les lobbies afin de vendre aux citoyens ce qui vient de leur nuire. Sur tout sujet international, Barack Obama semble toujours penser qu'il est leader du monde entier, si on croit aux déclarations de la Maison-Blanche. Il est allé en Angleterre récemment, juste avant le vote du Brexit, donner des leçons au peuple anglais et leur demander d'opposer au Brexit juste avant le scrutin. Séduction ratée. C'est un peu comme regarder un enfant tirant sur la rampe d'un escalier roulant, pensant que c'est lui qui fait monter tous les gens au sommet. Pour être un vrai leader international, il faut beaucoup plus que de l'en croire. Il faut de la crédibilité et de la compétence réelle. Et les instincts d'une personne nous dévoilent beaucoup sur ce plan. Dans la course pour la Maison-Blanche entre l'ancienne secrétaire d'État démocrate Hillary Clinton et l'homme d'affaires républicain Donald Trump, il y a deux profils très différents en ce qui concerne l'expérience internationale. J'ai lu les centaines de courriels de Clinton publiés par le département de l'État en réponse à une demande d'accès à l'information, et ce qui m'avait le plus frappé, c'est combien Clinton dépend de ses conseillers pour lui dire quoi penser et quoi dire. Elle ne savait même pas à quels traités internationaux l'Amérique était signataire et n'était apparemment pas capable d'effectuer une recherche Google afin de se renseigner. Elle était la plus haute responsable des affaires étrangères des États-Unis lors de la formation et la montée de l'État islamique grâce au soutien américain, et aussi lorsque l'ambassade américaine fut attaquée par les djihadistes à Benghazi. Et ceci malgré le fait que les diplomates américains avaient déjà demandé les renforts sécuritaires et les Britanniques furent déjà partis en sachant que la situation risquait d'être fatale. Avec Clinton, tout n'est qu'une mise en scène, comme le fameux redémarrage avec la Russie qu'elle voulait marquer avec un gros accessoire de scène, un bouton de remise à zéro. Tout a foiré quand même, quelle surprise. Quant à Trump, il a construit des immeubles partout dans le monde sur lesquels figure son nom. C'est pas par magie qu'il a réussi à faire cela partout. Et ce n'est que lui qui est responsable de ses actions en tant qu'entrepreneur et est aussi responsable de toute l'équipe qu'il embauche de son propre fric. Je dois dire que d'investir ses propres sources fait que vos instincts doivent obligatoirement se développer très vite afin de survivre dans un environnement international. Réussir dans le commerce international, c'est comprendre la culture, la politique, l'économie, la négociation et aussi les dynamiques qui existent entre eux. Un véritable homme d'État aurait pu, par exemple, lire les feuilles de thé au-delà de l'accord nucléaire iranien et d'identifier la Turquie comme un prochain champ de bataille économique et politique. J'ai prévu moi-même un tel développement l'an dernier, par écrit. Le président des États-Unis devrait impérativement être capable de faire de même, n'est-ce pas? Avec moi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, Diana Johnson est journaliste américaine résidant à Paris depuis 1990, ancienne éditrice européenne de l'hebdomadaire In These Times. Elle fut aussi attachée de presse du groupe des Verts au sein du Parlement européen de 90 à 96. Elle est contributrice du journal Counterpunch et spécialisée dans les politiques occidentales. Et Vincent Michelot est professeur de l'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon et spécialiste de l'histoire politique des États-Unis. Il a co-rédigé le bilan d'Obama. Il est également auteur de L'Empereur de la Maison Blanche et de Le Président des États-Unis, un pouvoir impérial. Bienvenue à l'émission tous les deux.
Bonjour.
Oui. Bonjour, et notez que je suis auteur du livre sur Hillary Clinton, La Reine du Chaos.
Ah, super. Alors, sur ce point-là, Diana Johnson, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous croyez que, en tant que secrétaire d'État, Hillary Clinton, son bilan était assez remarquable, disons, soit dans le sens bon ou mauvais, ça dépend de votre perspective. Mais est-ce que vous croyez que c'est assez évoqué, son expérience dans cette élection-ci?
Je pense que non, parce qu'en effet, ce bilan est catastrophique. Mais elle a planifié sa carrière depuis qu'elle était mariée au président, en se faisant élire au Sénat et puis nommée secrétaire d'État pour faire un curriculum vitae qui permet aux gens de dire « Ah, elle a une expérience merveilleuse ». Et on ne regarde pas le détail de cette expérience qui est catastrophique. C'est qu'elle a encouragé les guerres qui créent le chaos dans le titre de mon livre, les réfugiés, les États détruits, etc.
Alors, Vincent Michelot, est-ce que vous êtes d'accord ou non sur ce point-là? Est-ce que vraiment ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à Daesh, par exemple, les guerres dans le Moyen-Orient, la Libye, jusqu'à quel point est-ce que vous croyez que Hillary Clinton en est responsable?
D'abord, je trouve Diana Johnson un petit peu dur sur Hillary Clinton, tout simplement parce que on parle beaucoup de son bilan en matière de politique étrangère lorsqu'elle était secrétaire d'État, tout simplement parce qu'il représente un contraste extraordinaire avec l'absence totale d'expérience de Donald Trump en matière de relations internationales. Ensuite, lorsque Hillary Clinton arrive comme secrétaire d'État, première secrétaire d'État de Barack Obama, elle hérite d'un bilan de 8 années de politique étrangère qui a sans doute été une des pires périodes des États-Unis sur la scène internationale, et que son bilan, même s'il est contrasté sur certaines régions, et on pourra parler notamment de Daesh ou de ISIS, notamment en matière de promotion de l'égalité, en matière de défense des libertés religieuses, se situe sur une position qui me paraît plus positive que ne peut me le dire mon interlocutrice.
Et Diana Johnson, est-ce que vous croyez que Donald Trump, comme avait dit Vincent Michelot, est vraiment nul par rapport aux affaires internationales? Enfin, de mon point de vue, je crois que c'est un homme d'affaires qui a dû faire de la commerce un peu partout dans le monde, parce qu'on n'arrive pas à avoir son nom sur des immeubles aux Émirats, par exemple, ou dans les autres pays, dans l'Amérique du Sud, sans avoir des compétences sur le plan international. C'est pas des compétences académiques ou bien de politique gouvernementale, mais est-ce que c'est même pas mieux d'avoir des expériences en tant qu'entrepreneur qui doit se débrouiller tout seul?
Je veux Dans le dernier chapitre de mon livre sur Hillary Clinton, Reine du Chaos, je mentionne, bon, que je considère que Hillary représente le parti de guerre aux États-Unis. Elle a agi en continuité avec Bush, plus que Obama, en fait. Mais j'ai suggéré qu'elle est planifiée pour être élue présidente et que, en toute probabilité, les républicains choisiraient un candidat si mauvais que ça ferait paraître Hillary particulièrement bon. Exactement ce qui s'est passé. On a un candidat qui est ridiculisé par tout le monde. Évidemment, je pense que le manque d'expérience dans le crime, c'est mieux que l'expérience dans le crime. C'est un peu évident. Il a dit qu'il voulait faire les affaires plus par la guerre. Malheureusement, il exprime ses politiques très mal et qui donne occasion à ses adversaires de le ridiculiser et de ne pas parler des questions sérieuses.
Vincent Michaud, je vois que vous êtes tous les deux des grands fans de l'ancien président George W. Bush. Alors sur ce point-là, est-ce que vraiment on peut blâmer Bush toujours pour le bilan d'Obama, parce que c'est Obama qui a lancé la guerre en Libye, ou bien on pourrait même dire que c'était Sarko et les Britanniques, mais c'est Obama qui s'est vanté de la victoire. Et c'est Obama qui a tenté de se mêler, par exemple, plus récemment dans l'affaire du Brexit. Et ça, c'était une séduction ratée. C'est aussi Obama sous qui on a vu la montée de Daesh. Alors, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut vraiment continuer à blâmer le mandat de George W. Bush?
Je crois qu'il faut bien voir qu'il y a effectivement des continuités. Beaucoup d'observateurs ont pu décrire le premier mandat de Barack Obama comme étant dans la continuité absolue de celui de George Bush en matière de politique étrangère. On a même parlé de Bush 3 pour parler des années 2009-2013. Pour autant, en ce qui concerne la Libye, on est dans une intervention dans laquelle on a quasiment inventé le terme de « leading from behind », dans laquelle le président Obama est extrêmement réticent et ne donne un soutien que très conditionnel. Et puis, en ce qui concerne la montée de Daesh, elle n'est pas plus due à Barack Obama qu'elle n'est due à George W. Bush. Il y a un contexte international, il y a une situation à la fois en Irak, en Syrie, en Afghanistan qui fait que Daesh va monter en puissance, mais les politiques menées par l'administration Obama ne sont pas des politiques qui contribuent directement à la montée de Daesh, pas plus que la politique qui est conduite par Madame Clinton lorsqu'elle est secrétaire d'État sous la présidence de Barack Obama, car on fait comme si Madame Clinton fonctionnait comme un agent totalement indépendant d'une administration qui n'avait aucun contrôle sur elle. Je crois qu'il faut parler du bilan d'Obama et non pas du bilan de Madame Clinton, et elle agit dans un contexte qui était très précis, mais aussi dans un contexte institutionnel qui était très précis. Quant à Donald Trump, l'expérience sur la scène internationale est absolument nulle, et je voudrais simplement prendre deux points. Le premier, c'est le fait que aucun spécialiste de politique étrangère qui d'habitude à ce stade de la campagne se précipite dans les bras ou dans l'équipe du candidat investi, aucun spécialiste de politique étrangère n'est aujourd'hui dans l'équipe de Donald Trump. Et d'autre part, je crois que ce n'est plus une question de degré, c'est une question systémique, car un candidat qui a une telle ignorance des faits fondamentaux de la politique étrangère et qui en plus voit l'utilisation de l'arme atomique comme étant un recours tout à fait possible, est un candidat qui est non seulement ignorant mais dangereux.
Ouais, c'est clair qu'il est vraiment le chouchou de l'establishment. Hein. Diana Johnson, est-ce que c'est vraiment juste d'attribuer le mandat désastreux de Barack Obama à George W. Bush?
Non, mais je ne veux pas dire cela. Je reviens, parce que là, monsieur, on a dit beaucoup. Mm-hmm. Et je veux revenir sur la Libye, parce que pour moi, c'est le plus important. C'est le crime le plus grave qui est commis complètement par l'administration Obama. Il est bien connu que Obama n'était pas enthousiaste pour cette guerre, mais tout le monde dit que et Gates non plus. C'est Hillary qui a poussé avec certains autres que pour ça. C'est elle et puis les emails ont révélé que son équipe voulait vraiment utiliser son rôle dans la promotion de cette guerre pour la faire le champion des regime change, le changement de régime. C'est révélé. Il y a cette horrible scène où elle rit, quand elle apprend que monsieur Kadhafi a été brutalement assassiné. Alors, franchement,
je crois que ces mots c'était exact. C'était we came, we saw, he died. Et puis elle a ri. Hein.
Non, mais c'est sur les vidéos, on ne voit pas tout. Mm-hmm. Allez sur Google, c'est extrêmement accessible. C'est curieux si on ne l'a pas vu, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Il n'y a pas de doute. Et elle avait été conseillée par ses aides les plus proches de dire quelque chose, de prendre en effet, take the credit pour se faire un thème de sa campagne électorale avec cette réussite dans la stratégie de changement de régime.
Vincent Michelot?
Moi, je suis beaucoup plus sceptique. J'ai un peu
Excusez-moi.
Allez-y. Non, une minute. Vincent Michelot, allez-y.
Et c'est le rôle d'un political scientist d'être sceptique.
Oui, mais justement,
okay, allez-y.
Et je crois que ce scepticisme, il est sain, d'une part parce que on voit circuler en ce moment à la fois dans la droite la plus violente aux États-Unis et aussi dans le camp de Bernie Sanders un certain nombre de théories conspirationnistes autour de Hillary Clinton, auquel je ne souscris absolument pas. D'autre part, sur la Libye, on a une intervention qui est coordonnée par trois pays et la remarquable interview que le président Obama a donnée à Jeffrey Goldberg dans The Atlantic ce printemps montre bien à quel point il était totalement réticent sur ce dossier, les regrets qu'il peut avoir sur la façon dont l'opération s'est déroulée, mais aussi sur le fait que la France et la Grande-Bretagne interviennent et que très très rapidement les deux pays, pour des raisons différentes, se désintéressent du dossier et que les États-Unis se retrouvent, même si c'est effectivement la puissance inévitable, la puissance indispensable, avec un dossier sur lequel à l'origine ils étaient effectivement très très réticents et je crois que on a fait à ce moment-là un pari qui était un pari sur la capacité des États-Unis ensuite à préparer la reconstruction qui effectivement n'a pas été
c'est toujours raté hein. De ce côté-là oui bien sûr
oui. Il est professeur de monopolie, un peu le débat. Si je parle de théorie de conspiration, j'aimerais qu'il précise, parce qu'il accuse les gens de théorie de conspiration sans dire de quoi il parle. Et évidemment, je connais bien cette interview de l'Atlantique où Obama prend un peu sa distance de sa propre politique. Mais Obama n'est pas le candidat de la présidence actuellement.
Oui, c'est vrai. En plus, on peut aussi parler du rôle de la France et de la Grande-Bretagne dans la Libye. Jusqu'à quel point, Diana Johnson, est-ce que vous croyez que c'était Hillary Clinton qui était vraiment chargée de toute cette affaire et non pas Nicolas Sarkozy et David Cameron? Jusqu'à quel point est-ce que c'était Hillary Clinton qui a géré la situation avec ces deux gens-là? Et est-ce qu'on a des preuves à cet égard?
Oui, mais il y Maria et ses propres mémoires. Elle s'en vante de son rôle d'avoir fait cette alliance des pays arabes, etc. Mmh. Et puis, en plus, il y a des témoignages par lesquels elle a saboté les tentatives de compromis pacifique, parce qu'il y avait les pays africains, notamment l'Afrique du Sud, qui voulaient trouver un compromis. Il y avait même des officiers américains militaires qui avaient des contacts pour faire un compromis pour que le colonel Gaddafi se retire. Il était vieux et Hillary Clinton a eu sa tête. Et c'est pour elle un atout politique.
Vincent Michelot, en parlant très vite de l'Ukraine et de la situation en Ukraine, qu'est-ce qu'on pourrait dire du bilan de Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État sur ce conflit-là?
Sur ce conflit-là, il faut d'abord voir que l'intervention en Ukraine et les sanctions qui ont fait suite à l'intervention en Ukraine ne datent pas du moment où Hillary Clinton est aux affaires et secrétaire d'État. Donc, là-dessus, la situation que Hillary Clinton laisse lorsqu'elle quitte les responsabilités en matière de relations internationales et celle d'un OTAN qui fonctionne d'une manière, j'allais dire, quasiment routinière. Et aujourd'hui, il est nécessaire sans doute de réfléchir au fonctionnement de l'OTAN, à ses équilibres, même si il ne faut pas le faire dans des termes aussi brutaux et aussi simplistes que le fait Donald Trump. Beaucoup d'analystes en matière de politique étrangère aujourd'hui, tels que Daniel Drasner à Tufts, le disent très ouvertement, l'OTAN est à un moment de crise, redéfinition, et il faut sans doute profiter de cette élection présidentielle pour reprendre les missions. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'Hillary Clinton ait quoi que ce soit à faire avec la situation aujourd'hui en Ukraine et en Crimée.
Et Diana Johnson, vous avez écrit un livre sur Hillary Clinton et son mandat. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'avis de M. Michelot?
Mais évidemment, elle n'était pas aux affaires à ce moment-là. Ce qui était aux affaires, c'était son ancienne porte-parole, Victoria Nuland, avec laquelle elle est très proche. On dit même qu'elle pourrait être secrétaire d'État du président Hillary Clinton. Et c'est elle qui a mené la politique, qui a utilisé une expression un peu impolie envers l'Union européenne. Et donc, non, elle n'était pas directement, mais son équipe était directement. Et ce que je trouve particulièrement inquiétant, vraiment inquiétant et dangereux dans la campagne actuelle, c'est que les démocrates ont tendance à faire leur campagne, non pas sur Trump, ce qui est déjà assez faible, mais contre la Russie. C'est comme si on faisait la campagne présidentielle contre Poutine. Parce qu'on dit et comme ça, non mais c'est très dangereux, parce que si elle gagne, ça serait presque l'équivalent d'un vote pour la guerre contre la Russie. Je trouve que cette démagogie anti-Trump, bon, il est déjà un candidat très critiquable, mais d'utiliser la Russie comme adversaire, c'est vraiment très, très périlleux.
Vincent Michelot, que pensez-vous de la campagne, la rhétorique contre la Russie lors de sa campagne électorale?
Moi, je ne pense pas que ce soit les démocrates qui aient invité Poutine et la Russie dans ce débat. On peut le penser, mais je ne sache pas que ce soit Hillary Clinton ou Tim Kaine ou d'autres qui aient directement invité la Russie à rendre public des emails qui auraient été saisis. Et je pense que l'idée qu'on positionne la Russie comme le grand Satan côté démocrate est très largement exagéré. Lorsque Donald Trump met une question au centre du débat, elle est tout de suite l'objet d'attention énorme. Mais il faut aussi voir qu'il s'agit d'un débat sur l'OTAN, il s'agit de voir qu'il s'agit d'un débat sur le respect d'une politique qui a été mise en place, notamment des sanctions à la fois de l'Union européenne et des États-Unis vis-à-vis de la Russie après l'annexion de la Crimée. Il faut voir aussi qu'il s'agit d'un débat sur le respect des grands équilibres et des grandes stratégies de la diplomatie, quelle que soit l'opinion qu'on puisse en avoir dans les 20 dernières années. Et donc, effectivement, la Russie figure, mais n'est pas le grand Satan qu'on veut bien lui prêter.
Ok, Vincent Michelot et Diana Johnson, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur leclashshow.com ou sputniknews.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.